Bonjour, je suis Géraldine Jakowski et je vous accueille sur mon podcast Balance ton héroïne. Dans cette émission, je mets en lumière les héroïnes de l'ombre. Ces héroïnes des temps modernes qui agissent chaque jour au sein d'une association, d'une ONG ou qui ont développé leur propre projet en faveur des droits humains, de l'inclusion, la diversité. Sur ce podcast, il y a aussi des interviews d'hommes qui viennent nous parler de leur héroïne, ou alors de leurs actions ou prises de parole en faveur de l'évolution du droit des femmes. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, abonnez-vous ou notez-le 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça compte pour moi, c'est la reconnaissance de mon travail. Partagez-le aussi autour de vous ou au sein de vos réseaux, afin que mes messages résonnent plus fort. Et puis, pour le soutenir financièrement, vous pouvez aller voir le compte Balance ton héroïne sur Tipeee, dont je vous mets le lien en ressources. Nicolas Froissart, bonjour et bienvenue sur le podcast Balance ton héroïne.
Bonjour Géraldine, merci beaucoup.
Ben écoutez, merci d'avoir accepté cette interview, puisque je vous suis sur LinkedIn. Et j'ai senti au travers de vos communications et de vos écrits qu'on portait des valeurs communes. Et en creusant et vraiment en analysant ou en lisant de manière précise vos écrits, j'ai compris qu'on pouvait être, notamment avec « dénonce tes héros » ou « dénonce tes héroïnes », sur les mêmes thèmes de mise en avant, de mise en lumière d'héros et d'héroïnes de notre temps.
Oui, je crois qu'on a tous besoin aujourd'hui de voir des personnes qui s'engagent, qui font du bien à notre société. Et effectivement, ça fait partie des histoires que j'essaye de raconter sur LinkedIn notamment, et de mettre en avant des personnes qui me semblent incarner un peu ce qu'on devrait tous faire pour vivre dans un monde un peu plus agréable.
Et je vous rejoins sur ce point, on en parlera dans cette interview. Est-ce que vous pouvez, pour l'audience Balance ton héroïne, vous présenter, Nicolas ?
Je m'appelle Nicolas Froissart, j'ai 47 ans et j'habite à Paris.
D'accord. Et vous avez, il me semble, il y a 20 ans maintenant, rejoint le groupe SOS.
Un peu plus de 20 ans.
Plus sur ce groupe.
Ouais, j'ai ce qu'on appellerait aujourd'hui peut-être bifurqué. On parle beaucoup de bifurcation aujourd'hui, notamment chez les jeunes qui, après leurs études ou après avoir travaillé pendant quelques années dans des entreprises classiques, ont envie de trouver un chemin qui correspond peut-être davantage à leurs valeurs. Et moi, j'ai fait ça il y a un peu plus de 20 ans, parce que j'étais juriste de formation, je fais 5 ans de droit, et j'ai commencé à travailler dans des compagnies d'assurance parce que c'était ma spécialisation en cinquième année. Et je n'étais pas complètement satisfait. En tout cas, c'était pas ce que j'avais envie de faire. Et j'ai rencontré effectivement par hasard le groupe SOS, une association qui devait faire 300 ou 350 salariés à l'époque. Aujourd'hui, on est un peu plus de 20 000, donc ça s'est beaucoup développé. Mais déjà des activités à l'époque, associatives, tournées vers l'intérêt général, vers l'action sociale. Et aujourd'hui, on gère aussi des hôpitaux, des crèches, des maisons de retraite. On fait beaucoup de choses dans la transition écologique. On gère des équipements culturels. On s'occupe d'enfants en difficulté. Enfin, vraiment beaucoup de sujets. Et en construisant et en développant ce groupe, aujourd'hui j'en suis un de ses dirigeants, en construisant ce groupe, je pense sur deux piliers qui sont l'innovation sociale ou sociétale, comment on peut répondre à des besoins qui ne sont pas satisfaits dans notre société, le faire de façon non lucrative, puisqu'encore une fois on est associatif, il n'y a pas d'actionnaire, zéro actionnaire, et en le faisant de façon entrepreneuriale. Moi, c'est ça qui m'éclate aussi dans mon job aujourd'hui, c'est que on n'a pas d'actionnaire, mais néanmoins on est quand même dans une logique entrepreneurial, on crée des projets tout le temps, on essaye d'améliorer ce qu'on fait, on, On remet en permanence les choses sur la table pour voir si nos établissements sont toujours aussi utiles, s'il n'y a pas d'autres choses à inventer. Enfin, c'est vraiment une logique, je trouve, qui est passionnante. Et pour les jeunes, justement, qui ont envie de bifurquer, je pense que ce type d'organisation, dans lesquelles on peut quand même développer des compétences, parce que je crois que notamment les jeunes, mais pas que, enfin, je pense quand on travaille et quand on a un job, on a envie aussi de pouvoir pleinement exercer ses compétences et en développer d'autres. Et c'est le cas chez nous. Et puis en plus, effectivement, la question du sens qui aujourd'hui est importante pour beaucoup d'entre nous.
Ce qu'on sent aujourd'hui post-Covid avec ces jeunes, mais aussi les actifs de tout âge qui ont envie de trouver du sens dans leur métier, dans l'entreprise qu'ils ont rejoint ou qu'ils vont rejoindre et dans leurs actions de tous les jours. Moi, j'avais envie... Alors, on a eu la présentation du groupe SOS et on peut se rendre compte de l'évolution enfin, de la transformation en fait de ce groupe, et vous y avez contribué. Moi, j'aimerais parler de l'homme que vous êtes. Parce que je vous ai entendu dire dans des interviews que vous parliez de satisfaction personnelle quand on évolue dans le milieu associatif.
Je crois qu'aujourd'hui, il y a des enjeux, en tout cas sociétaux, qui sont importants, hein, que ce soit là. Les inégalités, le réchauffement climatique, évidemment. Et je crois qu'on a tous sans doute besoin de se sentir impliqués sur ces sujets-là. En tout cas, je pense que c'est, comme toujours, on se sent mieux quand on est acteur plutôt que quand on subit. Et voilà, moi, mon sujet, c'est un peu ça, c'est d'essayer de faire en sorte de contribuer à changer un peu de modèle. Pendant très longtemps, on était sur un modèle... tourner quand même vers la croissance, l'hypercroissance, vers pour certaines personnes l'accumulation, essayer de la réussite, c'était un peu le pouvoir, l'argent, c'était un modèle, on y reviendra sans doute pendant le moment qu'on passe ensemble, mais un modèle très très masculin ou très viril, en tout cas dans la connotation qu'on lui connaît. Et je crois qu'il faut passer un petit peu à autre chose. Et je crois que, oui, pour moi, un des sujets aujourd'hui est presque majeur, c'est qu'est-ce que ça veut dire que de réussir sa vie aujourd'hui. Et je crois qu'il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas essayer d'avoir des responsabilités ou gagner de l'argent. Enfin, évidemment, c'est tout à fait louable. Mais on voit bien que des entrepreneurs, en tout cas des personnes qui ont beaucoup, beaucoup gagné d'argent dans leur vie, à un moment donné, il leur manque quelque chose. Enfin, tous ces entrepreneurs américains qui ont légué une partie de leur fortune à leur fondation. Enfin, on voit bien qu'il y a un sujet autour de ça. Et donc, je pense qu'il faudrait collectivement qu'on se réinterroge sur qu'est-ce que ça veut dire que réussir sa vie, y compris d'un point de vue professionnel. Et je pense que c'est ça qui fera qu'on changera de modèle, c'est que réussir sa vie, ça deviendra justement aussi contribuer par son boulot à résoudre des problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Encore une fois, les inégalités, la question environnementale. Enfin, il y a beaucoup beaucoup de sujets aujourd'hui sur lesquels il faut qu'on s'implique toutes et tous. Donc voilà, c'est un peu le sujet que j'essaye de porter. Notamment sur les réseaux.
Nicolas, aujourd'hui, c'est le 8 mars, une date clé.
C'est ce qu'on a beaucoup à dire, c'est que le 8 mars, il faut que ce soit toute l'année. C'est une question qui est pas simple, hein, le rôle des hommes dans tout ça. Il faut trouver un équilibre, je pense, qui est pas simple, mais qui est important. Et je pense que beaucoup de femmes attendent que les hommes aussi s'engagent et que c'est une évolution, un combat, le droit des femmes qui peut pas simplement être porté par qui peut pas simplement être porté par les femmes. Donc moi je fais partie effectivement de ceux qui essayent de prendre la parole parfois sur ce sujet. Moi je dirais pas que je suis féministe, hein. Je pense que c'est il faut faire attention aux termes qu'on utilise. Alors après, c'est très français aussi de s'interroger sur les définitions, sur comment on se qualifie dans son engagement ou dans ses comportements. Il faut pas non plus y passer des heures et des heures, mais c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à me qualifier de, enfin essayer d'être un allié du féminisme, Et qu'est-ce que ça veut dire qu'être un allié? Ben, je pense que c'est être à l'écoute, c'est écouter effectivement ce que les femmes ont à dire, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne réalisent pas, qui ne comprennent pas ce que les femmes vivent parfois au quotidien. Moi, j'ai quand même évolué sur ces questions il y a, je sais pas, une quinzaine d'années peut-être, en écoutant des femmes, des amies femmes, en leur posant des questions sur notamment le harcèlement de rue, sur le fait d'avoir peur de rentrer le soir chez soi. Enfin, et c'est vrai que peut-être moins aujourd'hui, mais je pense qu'il y en a encore qui réalisent pas tout à fait effectivement, parce que quand on est un homme, c'est des choses qu'on ne vit pas, ou alors vraiment très rarement, cette peur de rentrer chez soi tard la nuit. Et donc voilà, je pense que c'est petit pas par petit pas. Il faut qu'il y ait une curiosité aussi des hommes qui soit peut-être plus importante, et d'être vraiment en position d'écoute, ce qui est pas forcément ce qui nous qualifie le mieux en général. Les hommes, c'est vrai qu'on a, parce que c'est une éducation aussi qui a fait que voilà, un homme, il faut qu'il s'exprime, qu'il fasse, qu'il montre qu'il est compétent, qu'il a des choses à dire. Et je pense que ça, c'est quelquefois un peu contraire à ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait vraiment se mettre dans une position, ouais, d'écoute. Et c'est vrai que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux des hommes, quand des femmes prennent la parole, y compris sur LinkedIn, sur leur perception des avancées en matière d'égalité femmes-hommes. Quand elles racontent ce qu'elles vivent, enfin, il y a beaucoup d'hommes parfois qui se permettent des remarques diverses et variées. Enfin, les grands classiques, vous desservez votre cause en vous exprimant comme ça. Enfin voilà, il y a beaucoup de jugements et beaucoup de commentaires qui effectivement sont assez intrusifs, et et peuvent être mal vécus. Il y a une agressivité parfois importante. Donc je pense qu'il y a aussi les hommes doivent aussi peut-être se parler entre eux et sur cette question, et voilà, je pense que ça fait partie des sujets qui, à mon avis, sont extrêmement importants de s'interroger sur ce modèle aussi qu'on nous a, dans lequel on nous a inscrit aussi la société de façon générale. Le fait de cacher ses sentiments, le fait de, enfin voilà, il y a un livre qui a été écrit il y a pas très longtemps par Lucille Pétavin, qui est historienne, et qui, donc, le livre s'appelle Le coup de la virilité. Là aussi, il faut faire attention aux termes, parce que personne ne met les mêmes définitions parfois derrière des mots. Donc moi, c'est vrai que quand je parle de virilité, c'est un modèle culturel pour les hommes, dans lesquels les hommes ont grandi. Et c'est vrai que cette virilité dans notre société, c'est l'homme fort, c'est l'homme aussi qui est dominant, qui cache ses émotions, qui doit trouver les solutions tout seul, qui c'est pas forcément bien quand on est un homme de se faire aider. Et je pense qu'il faut un peu réinterroger ce modèle, et que je pense que cette question est assez centrale finalement dans notre société, parce qu'elle interroge effectivement les rapports entre femmes et hommes, mais elle interroge aussi un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la réussite. Est-ce que la réussite, quand on est un homme, c'est justement forcément d'avoir, c'est un peu caricatural, mais beaucoup de responsabilités, pour avoir une grande maison, une grande voiture, enfin, toutes ces choses qui aujourd'hui s'inscrivent un peu à l'inverse de ce qu'il faut faire aussi en lien avec la question environnementale. Et puis oui, parfois c'est un cocktail un peu détonnant, des hommes qui effectivement ont un modèle assez perturbant de la réussite, parce que quand on échoue, on peut aussi se dire qu'on est un loser. Voilà, il y a un mélange de plein de choses. Et en plus, c'est vrai qu'on n'a pas forcément été habitué à gérer nos émotions, parce que ça nous a été parfois interdit. Donc il faut un peu réinterroger tout ça. Et oui, c'est très en lien avec ce qu'on disait. Qu'est-ce que la réussite aujourd'hui? Et puis, il n'y a pas de mal parfois aussi à se faire aider quand c'est trop compliqué, plutôt que que de péter un plomb, et comme ça arrive trop souvent, malheureusement.
Moi, quand je vous entends, Nicolas, je sens vos convictions et je sens comment vous êtes passionné sur différents sujets. Enfin, passionné dans le sens, j'entends vos convictions. Et ce que je vois, c'est que vous, par rapport à votre positionnement au sein du groupe SOS, vous avez le champ des possibles. C'est-à-dire que, et c'est ce que vous avez développé ces 20 dernières années avec tous les acteurs du groupe SOS. C'est-à-dire que vous êtes dans une position où vous êtes clairvoyant et vous connaissez les problématiques de notre société. Vous êtes au cœur du sujet dans le sens où vous faites partie d'un groupe qui a la possibilité, au travers de sa structure ou de fait que vous êtes entouré d'associations ou par rapport aux fonds ou aux subventions qu'on vous accorde, de pouvoir agir pour résoudre ou faire évoluer des problématiques de société, mais on ne peut pas tout résoudre, en fait. C'est-à-dire que voilà, il y a une notion de sauveur, mais avec les limites du champ des possibles, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout résoudre au travers de vos actions.
Tout faire tout seul, en tout cas.
Seul, voilà. Tout seul.
Et c'est le cas pour le secteur associatif ou pour toutes celles et tous ceux plus largement qui travaillent sur des questions qui travaillent pour l'intérêt général. C'est que aujourd'hui, effectivement, ces acteurs-là et sur le terrain font un travail qui est fantastique, avec une reconnaissance de notre société qui est parfois pas à la hauteur, des salaires qui sont pas suffisants. Moi, j'ai tendance à dire que plus on fait un travail utile socialement en France, moins on est payé. Donc il y a quand même un sujet. Donc il faut porter ça collectivement, parce qu'à un moment, enfin, si tous ces métiers, les métiers du travail social, de la santé, de l'accompagnement du grand âge, de l'éducation, si tous ces métiers, les gens finissent par s'en détourner parce que il y a pas assez de moyens, on n'est pas suffisamment payé, enfin, notre société, elle s'écroule, en fait. C'est quand même, on l'a vu avec le Covid, hein. Enfin, s'il n'y avait pas les soignants, et puis de façon générale, toutes celles et tous ceux qui travaillent dans les structures de soins, mais plus largement, parce que nous, nos équipes, elles ont tenu dans nos hôpitaux. On en gère quelques-uns aujourd'hui dans nos maisons de retraite, qui étaient évidemment les structures les plus touchées. Mais dans nos, on gère beaucoup de structures pour qui hébergent et soignent des personnes en situation de handicap. On accueille dans nos établissements, dans d'autres établissements, beaucoup d'enfants et d'adolescents en situation en difficulté sociale et familiale. Et tous ces gens-là, toutes ces personnes pendant le Covid, et c'était très difficile. Enfin, imaginez des structures où il y a des gamins qui ont des parcours très difficiles, qui en plus peuvent pas sortir. Enfin, c'est les personnes en situation de handicap. Le confinement, c'était très compliqué pour ces personnes-là parfois de comprendre ce qui se passait. Enfin, c'est et voilà. Et c'est tous nos salariés ont été exemplaires pendant cette crise, et ils le sont. Ils l'étaient avant et ils le sont. Et ils le sont après. Donc, et c'est quand même ça qui fait à un moment donné que notre société, elle peut avancer. Le fait de travailler sur la solidarité, de s'occuper des plus vulnérables, des plus précaires, et puis de façon générale sur tout ce qui fait qu'on peut vivre, le logement, le soin. L'emploi, on a beaucoup aussi nous d'entreprises d'insertion, on travaille beaucoup sur l'insertion économique de personnes en difficulté. Et je crois qu'on a un peu oublié ça, on a perdu le sens. Je sais pas vraiment à quoi c'est dû, à beaucoup de choses, hein, un système très très individualiste, le libéralisme qui effectivement nous pousse à consommer et surtout à surconsommer, et effectivement une société, oui, très très individualiste. Et je pense qu'on a perdu le fil, et les êtres humains, il faut pas l'oublier, ont besoin les uns des autres. Je pense qu'on vient de là. Le groupe, à un moment donné, je pense, dans l'histoire de l'humanité, nous a permis de vivre et de survivre. Et s'il y avait pas de solidarité, il y a très longtemps, au début de l'humanité, s'il n'y avait pas de solidarité, je pense qu'on ne vivait pas très longtemps. Et malheureusement, on a un peu perdu ça. Et du coup, on perd aussi, je pense, une forme de joie de vivre, parce que je crois que c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur le terme de satisfaction ou de plaisir ou de bien-être, peu importe, mais je crois que quand on a l'impression de faire partie d'un tout, d'être utile aux autres, d'être utile à la société, je pense qu'on se sent bien, on est aligné avec ce qu'on est en tant qu'être humain fondamentalement. Et voilà, et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut redéfinir, c'est cette question de réussite et réussir sa vie. Je pense que c'est avant tout, on réussit sa vie quand on se comporte bien avec les autres, je pense. Donc avec ses proches, évidemment, mais avec la société dans son ensemble, avec les femmes quand on est un homme, et puis pourquoi pas essayer d'avoir un engagement qui fasse qu'on puisse rendre service. Il y a plein de façons de le faire. On peut faire du bénévolat, on peut donner son sang. Moi, ça m'exaspère. Ça fait des années maintenant que l'établissement français du sang crie sur tous les toits que les réserves de sang sont faibles. Et j'ai l'impression que c'est des sujets qui sont pas portés, qui sont pas relayés. Alors que bon bah quand on est en capacité de le faire, c'est pas très compliqué de donner son sang et on sauve des vies quoi. Donc voilà, c'est toutes ces façons de s'engager, je pense, qui font effectivement qu'il y a une forme de satisfaction personnelle à être utile qui est très présente quand on fait ce genre de choses et qui sont vitales pour le vivre ensemble, comme on dit.
Moi, je pense qu'il y a aussi dans la population des personnes qui portent nos valeurs et qui ont l'envie très forte de pouvoir apporter justement leur pierre à l'édifice associatif ou de contribuer au travers d'associations et qui ont un job alimentaire. Et ça, on en entend parler aujourd'hui beaucoup plus post-Covid. Donc, j'ai un job alimentaire, mais en parallèle, soit qui s'épanouissent au travers de leur passion, et justement, en général, qui peuvent aussi intégrer une association, une ONG, pour donner et se satisfaire au travers des actions qu'ils font, qu'ils soient bénévoles ou rémunérés. Nicolas, si on veut rejoindre le groupe SOS, comment ça se passe ?
Le groupe SOS, bah déjà, on peut y travailler, puisqu'aujourd'hui, on a plus de 20 000 salariés. Donc, c'est vrai que parfois, c'est aussi... parce qu'on passe beaucoup de temps les uns et les autres dans notre travail, donc c'est vrai que parfois, s'engager de façon professionnelle pour une ONG, une association, une entreprise sociale ou à impact, je pense que c'est quand même pas inintéressant. Et puis sinon, on peut tout à fait, à côté de son boulot, effectivement, avoir un engagement bénévole. Et nous, on a plusieurs façons de proposer aux personnes de s'engager. Il y en a une qui est super, qui s'appelle Parrain par mille, qui permet à des gens comme vous et moi je le fais depuis 4 ou 5 ans, de parrainer un enfant français ou un jeune réfugié qui a besoin d'un petit coup de pouce. Ça peut être pour aller au musée ou pour se balader, pour sortir un peu de son environnement, quand c'est des adolescents un petit peu plus âgé, ça peut être réfléchir à leur orientation, mettre à disposition son réseau pour qu'ils trouvent un stage ou un job une fois qu'ils ont avancé sur la question de leur formation. Donc moi je parraine Lamine depuis 4 ou 5 ans qui a traversé une partie de l'Afrique parce qu'il considérait que c'était une question de survie de fuir son pays, et donc il est arrivé en France il y a 5 ans, je pense, maintenant. Et voilà, on essaye de passer des bons moments ensemble, parce qu'évidemment, le parcours de l'exil, c'est dur. Donc, d'essayer de lui faire un peu oublier ce qu'il a vécu, de passer des bons moments, et puis de réfléchir ensemble à l'époque à son orientation, mais il savait très rapidement qu'il avait envie d'être menuisier, aujourd'hui il l'est. Et donc j'ai aidé parfois à trouver un emploi, et d'ailleurs l'utilité de LinkedIn a été assez remarquable, puisqu'il y a eu beaucoup de personnes qui avaient relayé le poste. Donc c'est vrai que parfois on critique beaucoup les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, en tout cas LinkedIn, parfois permet de vraiment concrètement, en tout cas lui a permis concrètement de trouver un boulot de menuisier. Donc voilà, c'est comme tout, hein, les outils, ça dépend comment on les utilise, et quand on les utilise justement pour créer de la solidarité, pour faire du bien, c'est super. Mais il y en a beaucoup, des associations, hein. Il y a des milliers et des milliers d'associations partout en France, Je crois qu'il faut ne pas hésiter à aller taper à la porte de sa mairie. En général, les mairies ont quand même une liste assez à jour des associations qui y agissent sur leur territoire. Et puis après, c'est des rencontres. On a forcément quelqu'un dans son entourage qui est bénévole. J'ai plus le chiffre en tête, mais il y a beaucoup de bénévoles, plusieurs millions de bénévoles en France. Donc, il y a forcément quelqu'un dans votre entourage qui s'engage, qui fait du bénévolat. Donc, ça peut être qu'échanger avec cette personne. Sur Internet, il y a évidemment beaucoup, beaucoup de choses. Nous, on a commencé à créer, ça s'appelle Active, des plateformes justement sur Paris, Lille, Bordeaux, notamment, plutôt les grandes villes, mais pour l'instant, mais pas que, d'essayer de faire des plateformes qui permettent justement à des personnes qui veulent faire du bénévolat de voir tout ce qu'il est possible de faire très rapidement. Avec Internet, c'est vrai qu'on peut maintenant avoir une solution technique qui permet très vite de géolocaliser et de voir effectivement toutes les associations qui recherchent des bénévoles près de chez vous. Donc, je pense que ce type de choses, ce type de dispositif va être amené à se développer parce que oui, vous avez raison, il faut aussi, c'est pas toujours évident de savoir quoi faire, où aller, où s'engager. Donc on considère que c'est un peu aussi notre mission au groupe SOS de faciliter cet engagement.
Si on a envie de soumettre une idée, on peut vous soumettre au travers d'une plateforme ou sur votre site des idées d'action. Donc là, moi, j'ai entendu par un par mille. J'ai eu une idée cet hiver.
Je vous écoute.
J'avais très envie d'aider les étudiants parce qu'en fait, ouais. On a des étudiants aujourd'hui qui crèvent la dalle, qui crèvent ouais. de faim. Et, ouais. et j'ai des yeux non loin de chez moi et j'ai juste envie d'aller donner devant. Mais vous savez, quand quelqu'un est dans le besoin, on peut pas donner comme ça. Et moi, non. Je voulais juste dire à ceux qui sont dans l'aisance financière, que ce soit 25 euros ou 50 euros versés tous les mois, ok, vous le faites pour des associations, vous faites des donations, faites-le pour un étudiant, une famille, un étudiant. Allez-y, versez-lui ces 50 euros, mais ça va changer son mois, en fait. Ça va changer la façon de faire ses courses et il va pouvoir se restaurer, c'est important, ne serait-ce qu'avec 50 euros. Même si aujourd'hui l'inflation est un gouffre financier. Mais vous voyez, est-ce qu'on peut vous soumettre des idées d'action?
Oui, sur le site du groupe ou moi directement, sur LinkedIn par exemple. Enfin, ça arrive fréquemment que des personnes effectivement me posent des questions ou même effectivement me soumettent une idée ou un projet. Et je pense que de plus en plus, notre organisation, le groupe SOS aujourd'hui, c'est ça, c'est permettre à des associations qui nous rejoignent de développer plus vite leur impact, ou ça peut être effectivement une association ou un projet d'association ou un projet d'initiative, voir comment, dans quelle mesure on peut l'aider à se développer. Je pense que oui, de plus en plus, c'est notre vocation. Parce qu'encore une fois, on ne fera pas tout seul et que c'est très bien qu'il y ait des idées qui viennent d'ailleurs. Donc, on coordonne un réseau de 500 épiceries solidaires pour permettre aux étudiants, pas qu'aux étudiants, mais notamment aux étudiants, de pouvoir manger correctement pour un prix vraiment très très réduit. Donc ça, c'est des initiatives qui existent depuis longtemps et qu'on contribue à développer et structurer. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que aujourd'hui, il y a plein de personnes qui se disent, bah moi, dans mon quotidien, comment je peux être utile. Je pense à Brahim, par exemple, que j'avais rencontré via LinkedIn justement, qui avait un resto à Mantes-la-Jolie, un burger, et donc il a créé le burger suspendu. Et l'idée, c'est comme le café suspendu, c'est qu'un client vienne au café, dans un café ou dans un restaurant, et paye, en plus de son café ou de son plat, un café ou un plat pour quelqu'un qui n'a pas les moyens. Et donc, au final, il y a un nombre de repas, de menus, qui sont payés d'avance et qui peuvent être utilisés par des étudiants. Et voilà, je pense que c'est une super idée. Brahim, il a créé ça dans son resto. Maintenant, il travaille avec plusieurs restaurants un peu partout en France en ayant objectif de développer ça. Ça s'appelle le burger suspendu. Alors, il ne s'agit pas que ce soit que des burgers, mais c'est parce qu'il avait démarré avec ça. Mais c'est qu'un restaurateur, en tout cas, puisse proposer, quel que soit les plats, le menu qu'il propose, à ses clients de payer un menu en plus pour un étudiant qui pourra en profiter dans dans les heures ou dans les jours qui suivent. Donc, c'est ça que je trouve super, moi, c'est qu'il y a des gens qui ont envie d'aider, d'être utiles. Enfin, sur la question de l'hébergement d'urgence, on sait à quel point c'est difficile aujourd'hui. Les acteurs de terrain sont très mobilisés, comme le groupe SOS et d'autres, tout le secteur associatif, les acteurs publics. Mais on sait que c'est dur. Il y a beaucoup de personnes, de familles même, qui dorment dehors. Et j'avais trouvé une initiative remarquable qui est portée par des dirigeants du Centre des jeunes dirigeants dans le Pays de la Loire, je crois, à Nantes, où ils se sont dit, bah voilà, on a des entreprises qui le soir sont vides, mais on a quand même des bureaux, qui sont chauffés avec des points d'eau. Pourquoi est-ce qu'on travaillerait pas avec des associations pour trouver un moyen d'accueillir des personnes qui sans domicile qui pourraient y passer la nuit? Donc ça s'appelle les bureaux du cœur. Ça aussi, ça se développe un peu partout en France en accompagnant des entreprises en lien avec les associations pour développer ce type de dispositif. Ouais, je crois que le groupe SOS fait beaucoup de choses et qui peut aussi aider ce type d'idée à se développer. Et puis chacun finalement peut aussi trouver une façon d'être utile. Et je crois que c'est comme ça qu'on arrivera vraiment fondamentalement à changer les choses si tout le monde à son niveau s'implique.
Je vous rejoins sur ce sujet parce que je pense qu'aujourd'hui on s'est acculturé au fait qu'il y ait des gens qui dorment dehors.
Oui.
Sauf que ces derniers jours, on voit bien qu'on est sur des températures inférieures à zéro et ne serait-ce que sortir à 7 heures du matin, moi ce que j'ai ressenti hier matin, c'est le froid qui me rentre dans la peau. Je marchais dans la rue et je sentais ce froid qui entrait dans mon corps et dans ma peau. Et en fait, quand il se passe là, je me dis, mais comment font ces migrants qui viennent de pays chauds, qui viennent d'Afrique, du Maghreb et de pays chauds, qui ne connaissent pas le froid et qui d'un seul coup vont être confrontés au froid? Comment, à un moment donné, mon organisme se défend par rapport à ça? Comment je fais pour survivre dehors? Et je parle bien de survivre parce que... En fait, j'ai vécu le 31 décembre quelque chose de très très fort. Je suis tombée sur les quais de Seine sur un corps mort. Ça ne m'était jamais arrivé. Et avec une touriste allemande qui faisait son footing, malheureusement, toutes les deux, on a été confrontées à la mort puisque il y avait un corps enveloppé qui était mort. Mais c'était perceptible de loin que c'était un corps mort. Il était 11h30 et plus rien ne vivait et plus rien ne bougeait sous ce drap. Et par chance, on a eu tout de suite une patrouille à cheval qui était là pour nous aider parce que je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire en fait et on était un peu démunis et on était sous le choc en fait. Et malheureusement, la patrouille nous a dit que c'était régulier, quasiment quotidien, qu'il y ait chez nous, à Paris, des gens qui meurent dans la rue. Et je oui. sais au combien les associations et je sais au combien
ouais, bien sûr.
Votre groupe font. Enfin, on les voit, ils sont là, ils sont présents. Mais notre quotidien à tous, en tant que citoyens, c'est qu'il y a en ce moment des gens qui meurent sous nos fenêtres. Et en fait, je passe ce message parce qu'il ne faut pas qu'on passe à côté de ces corps et de ces gens qui sont dans la rue sans les voir. Il ne faut pas qu'on s'en accoutume, en fait. Il faut qu'on continue de réagir, il faut qu'on continue d'être solidaire, il faut qu'on continue cette entraide. Et voilà, il faut qu'on continue d'être dans l'action. Ce ne doit pas devenir notre quotidien comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà.
Et il faut changer notre regard sur l'autre, parce que c'est vrai que souvent l'autre, il est devenu insignifiant. Et je pense pas effectivement qu'on en sorte collectivement grandi et même individuellement. Je pense qu'effectivement, de passer tous les jours devant des personnes qui sont dans un état catastrophique, qui dorment dehors, qui effectivement parfois meurent, ça arrive régulièrement. Il y a des associations comme les morts de la rue qui leur rendent hommage, parce que c'est vrai, on a tendance à oublier que derrière ces morts, c'est une vie, c'est un parcours de vie, c'était des personnes qui mérite qu'on se rappelle d'elle. Mais ce que vous disiez, c'est tout à fait vrai. Moi, j'avais été marqué par, il y a un petit peu plus d'un an, il y a un photographe assez connu, qui avait, je sais pas, 75 ou 80 ans, qui a eu un malaise dans la rue, en pleine rue à Paris, on devait être en janvier, je pense, janvier 2022, et qui s'est écroulé, et personne, alors je pense que personne ne l'a vu tomber, mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui après sont passées devant ce René Robert, il s'appelait, qui sont passés devant lui et qui ont sans doute considéré que bah, c'était un SDF et que voilà et qu'il y a plein de SDF qui dorment dehors. Et cette personne a fini par décéder parce qu'en restant des heures et des heures dans le froid après son malaise sans être secouru. Et ça m'avait marqué parce que je m'étais dit qu'enfin on avait vraiment perdu quelque chose et donc cette personne, peut-être si les gens l'avaient vue tomber, elle aurait été secourue. Mais à un moment donné, elle est rentrée dans la case du SDF qui dort dehors. Et là, du coup, ça choque personne. Et je sais pas, ça en dit beaucoup effectivement sur la société dans laquelle on vit. Cette espèce de résignation. Moi, j'aime pas les résignations. Je pense que les hommes et les femmes, il y a pas grand chose d'autre qui décide que les hommes et les femmes de qui composent un groupe ou une société, c'est nous qui décidons en fait comment fonctionne notre société. Donc ça veut dire qu'on a décidé collectivement, c'est peut-être un non-choix, ça revient au même, on a décidé collectivement que c'était possible de mourir de froid dans la rue, alors qu'il y a aucune raison, il y a aucune raison que ça que ce que ça que qu'on soit obligé de vivre ça. Et je pense que s'il y avait une mobilisation générale avec plus de moyens, mais aussi effectivement une réflexion, comment chacun peut être utile. On parlait des bureaux du cœur tout à l'heure, voilà, ces entreprises qui accueillent des sans-domicile le soir dans leur bureau. Bah, si la plupart des entreprises de ce pays faisaient ça, où il y a sans doute plein de choses à inventer aussi, en complément de ce que font effectivement les associations aujourd'hui. Et je pense qu'on serait tous beaucoup plus heureux, en fait. C'est ça qui est fou, quoi. C'est que, une fois qu'on aura compris que la consommation, l'individualisme, ça rend pas heureux, peut-être, et on voit bien, hein, avec le mal-être dans lequel sont beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un truc, là. Donc, le jour où on aura compris que c'est pas ça qui rend heureux, mais c'est plutôt, effectivement, la façon dont je m'engage, dont je peux être utile, dont je peux rendre service aux autres, dont je peux, ouais. Changer les choses à mon niveau, soit le changement incarne le changement que tu veux voir dans le monde, soit le changement que tu veux voir dans le monde. C'est une citation de Gandhi, je l'aime bien celle-là, je l'aime bien parce que à un moment donné, c'est vrai que c'est pas évident de savoir comment on peut changer les choses de façon globale, mais si déjà on change tous à notre niveau la façon dont on agit, dont on se comporte, dont on consomme, c'est déjà énorme, quoi.
J'étais en train de vous écouter et je me disais, j'avais envie de finir cette interview sur ces mots, en fait, et sur cette réflexion de, OK, alors comment moi, à mon niveau, je peux contribuer et changer le monde. Est-ce que ça vous va de finir sur ces mots, Nicolas?
Oui, très bien.
Sur cette touche positive, parce que, il faut pouvoir aussi insuffler de l'espoir, de l'engagement. Mais, je sens quand même qu'il y a une transformation au sein d'une partie de la population et je garde espoir par rapport à ça. Je garde espoir. En tout cas, c'est aussi par rapport à des personnes comme vous et moi qui prenons la parole sur ces sujets sur les réseaux sociaux ou au travers de médias. Un podcast, comme vous l'avez, Les Engagés, ou le podcast Balance ton héroïne, que on va aussi apporter notre contribution pour transformer ce monde. Donc, je suis ravie de cette connexion. Je suis ravie d'avoir échangé avec vous, parce qu'on porte les mêmes valeurs et qu'on est dans le même agir et les mêmes actions. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour tout ce qu'on va faire, pour tous les le porte-voix, les porte-voix que nous sommes et toutes les actions que nous ferons résonner sur les réseaux au travers de notre communication.
Merci beaucoup, Géraldine.
Merci Nicolas, à bientôt.
À bientôt.